إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir la lecture du chapitre sur la description de la prière, extrait de l'ouvrage Manhaj al-Salikin de son auteur, l'Amin al-Shaykh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Nissi'di rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier les premières lignes de ce chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné le comportement qu'il convenait d'adopter lorsqu'on se rend à la prière et lorsqu'on entre à la mosquée. Puis on a vu ce qui était lié au takbir de sacralisation, qui est le premier takbir par lequel on entre dans la prière, ainsi que la manière de lever les mains pour celui-ci et l'endroit où on devait poser les mains après avoir fait le takbir. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وَيَقُولْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. L'auteur rahimahullah ta'ala nous indique donc qu'après cela, lorsque tu commences ta prière, il est légiféré de prononcer l'invocation que l'on appelle l'invocation d'ouverture. Et cette invocation, elle fait partie des choses qui sont recommandées lors de la prière et qui sont confirmées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah ta'ala nous a donc mentionné cette formule et nous a indiqué qu'il y en a d'autres qui sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il y a par exemple celle que rapporte Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam gardait le silence un court instant entre le takbir et la récitation. » On voit donc à travers cela que cette invocation a lieu immédiatement après le takbir de sacralisation et avant la récitation. Et on voit également que cette invocation, elle a lieu à voix basse. En effet, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam gardait le silence un court instant entre le takbir et la récitation. Il lui a alors demandé ce qu'il disait durant ce moment de silence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'invocation qu'il disait, qui est « Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. » اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim رحمهم الله تعالى. Il y a d'autres invocations qui sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont légiférées de prononcer lors de l'ouverture de la prière. Et pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie au livre de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière, dans lequel il a recensé les différentes invocations qui sont légiférées et authentifiées à ce sujet. Et la sunna, lorsqu'il y a différentes invocations qui nous sont rapportées en différents termes, c'est de les prononcer chacune de manière aléatoire, que tu prononces parfois une invocation et parfois l'autre, et ainsi de suite dans tes différentes prières. Et on a vu dans le cours d'hier que le fait de mettre en pratique les différentes choses qui sont rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon aléatoire comme il le faisait, ceci comporte de nombreux bénéfices. On avait mentionné hier quatre bénéfices qui sont, premièrement, qu'en faisant cela, tu mets en pratique sa sunna. De la même manière que lui prononçait ses différentes invocations, tu les prononces également de manière aléatoire dans tes prières. Deuxièmement, en faisant cela, tu fais vivre sa sunna et tu la préserves, afin que cette sunna ne soit pas oubliée. Troisièmement, ceci est une aide pour toi afin de ne pas oublier la science que tu apprends. Car celui qui ne met pas en pratique ses invocations, il est fort probable qu'il les oublie rapidement. Contrairement à celui qui, dans chacune de ses prières, prononce parfois une invocation et parfois une autre, alors celui-ci, bi'idhnillahi ta'ala, il ne les oubliera pas. Et enfin, quatrièmement, ceci va t'aider à la concentration et à l'humilité dans ta prière. Que tu pries avec un cœur présent, en étant conscient des mots que tu prononces, et non pas de manière routinière et mécanique, en prononçant sans cesse les mêmes mots, sans même réfléchir aux gestes que tu fais et aux mots que tu prononces, Wallahu al-musta'an. Donc le fait de mettre en pratique ces sunnah, c'est-à-dire ces invocations qui sont légiférées, de manière aléatoire, ceci va t'aider à avoir plus de concentration dans ta prière, bi'idhnillahi ta'ala. Après cette invocation, il dit, rahimahullah, thumma yata'awwadh. Après cela, il cherche refuge, protection auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en prononçant l'isti'adha, et se mettant en pratique la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a dit, dans le verset 98 de Surat al-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, cherche protection, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Il est donc légiféré après l'invocation d'ouverture de prononcer Al-Isti'adha. Et la formule légiférée d'Al-Isti'adha, elle nous est rapportée dans un hadith d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qui nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier la nuit, puis il nous dit un peu après dans le hadith qu'il prononçait la formule d'Al-Isti'adha en disant A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ceci est la formule la plus complète d'Al-Isti'adha à prononcer lors de ta prière. Et si la personne dit seulement A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, alors cela est suffisant, inshallah ta'ala. Ensuite, il dit rahimahullah wa yubasmil, et il prononce la basmala. La basmala qui est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Il prononce donc al-isti'adha et al-basmala avant de commencer à réciter Sourate al-Fatiha. Puis il dit wa yaqra'u al-Fatiha. Puis il récite la Fatiha. Et ce d'après le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, d'après Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Il n'y a pas de prière, c'est-à-dire que celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha, sa prière n'est pas valide. Car la récitation de Surat al-Fatiha est un des piliers les plus importants de la prière. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit وَيَقْرَهُ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ من الرباعية والثلاثية سورة. Et il lit avec elle, c'est-à-dire avec Surat al-Fatiha, après l'avoir récité, dans les deux premières unités, dans les deux premières raka'a, des prières à quatre ou trois unités. C'est-à-dire que dans les prières à deux unités, comme le Fajr, ou les prières surrogatoires en deux unités, on récite Surat al-Fatiha et une autre Surat. Et dans les prières à quatre et trois unités, on récite une autre Surat seulement dans les deux premières unités. Et cette récitation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. C'est-à-dire que si une personne ne connaît que Surat al-Fatiha, alors cela lui suffit et sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Ou si une personne, après avoir récité Surat al-Fatiha, fait le takbir et s'incline, et oublie de réciter une autre Surat avec Surat al-Fatiha, alors sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Car la récitation après Surat al-Fatiha, elle est recommandée. Elle n'est pas obligatoire. Toutefois, lorsqu'on dit qu'elle est recommandée, cela ne veut pas dire que le musulman doit prendre l'habitude de la délaisser. Au contraire, tu dois être assidu à cela, assidu à faire les choses qui sont recommandées dans ta prière, ne pas les délaisser, ne pas être négligent à ce sujet. Car plus ta prière est complète, plus la récompense de cette prière sera grande, inshallah ta'ala. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, plus tu suivras dans ta prière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sera grande. Donc cela est recommandé, mais cela ne veut pas dire pour autant que le musulman doit prendre l'habitude de délaisser cela. Au contraire, tu dois y être assidu, mais le fait de savoir que c'est recommandé, cela te permet de savoir que si tu oublies, ou que si un jour tu ne récites que Surat al-Fatiha, alors ta prière est valide, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous indique quels sont les surats à réciter durant les différentes prières. Et comme on va le voir, ces sourates font toutes partie de ce que l'on appelle al-mufassal. Al-mufassal qui est la dernière partie du Coran. À partir de sourate Qaf, jusqu'à Sourate An-Nas. Et Al-Mufassal, il se divise lui-même en trois parties. Il y a Tiwal Al-Mufassal, qui commence de Sourate Qaf jusqu'à Sourate Amma, Sourate An-Naba. Il y a Awsat Al-Mufassal, qui sont les sourates moyennes du Mufassal, de Sourate An-Naba jusqu'à Sourate Ad-Duha. Et Qisar Al-Mufassal, les courtes sourates du Mufassal, de Sourate Ad-Duha jusqu'à Sourate An-Nas. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit que la sourate que l'on récite après Sourate Al-Fatiha, c'est Fil Fajr min Tiwal Al-Mufassal, pour la prière du Fajr parmi les longues sourates du Mufassal, comme on a dit de Qaf jusqu'à An-Naba. Wa Fil Maghrib min Qisarihi, et dans la prière du Maghrib, les courtes sourates du Mufassal, de Sourate Al-Duha à Sourate An-Nas. Wa Fil Baqi min Awsatihi, et dans le restant des prières, c'est-à-dire les prières à quatre unités, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr et Salat al-Isha, on récite des sourates moyennes du Mufassal, c'est-à-dire de An-Naba jusqu'à Ad-Duha. Et cela, les gens de science l'ont déduit des nombreux hadiths qui sont rapportés concernant les sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de réciter dans ses prières, ou celles qu'il a ordonnées à certains de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de réciter dans ses prières. C'est donc cela qui est recommandé de réciter lorsque l'on prie. Mais si une personne récite par exemple une longue sourate du Mufassal pour la prière d'El Maghreb, ou une courte sourate pour la prière d'El Isha, et ainsi de suite, alors il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala. Car cela rentre dans la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an » et réciter ce qui vous est possible du Coran. Mais le mieux est ce qu'il y a de plus méritoire, et de suivre en cela ce qui nous est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, j'attire votre attention, que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commençait une sourate en prière, généralement il l'a terminée, ou bien en une seule unité, ou bien alors il l'a divisée entre la première et la deuxième unité, en faisant en sorte toujours que la première unité soit un peu plus longue que la seconde, comme cela est rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: yajharu fil qira'ati laylan wa yusirru biha naharan. Il récite à voix haute la nuit et il récite à voix basse la journée. Ce qui est visé par la nuit ici, c'est les prières d'El Fajr, Al-Maghrib et Al-Isha. Ce sont les trois prières dans lesquelles il est légiféré de réciter à voix haute. Et les prières du jour, ce sont le Dhuhr et l'Asr, qui sont des prières que l'on accomplit à voix basse, comme cela est confirmé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc que l'on récite à voix basse la journée, puis il dit « illa » à l'exception de l'Jum'a, ou l'Aïd, ou l'Kusuf, ou l'Istisqa, fa innahu yajharu biha. À l'exception de la prière du vendredi, la prière de l'Aïd, la prière de l'éclipse, la prière de demande de pluie. Il nous dit donc que pour ces quatre prières, malgré qu'elles ont lieu durant la journée, on récite dans celle-ci à voix haute. Comme cela est rapporté dans les hadiths à ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلْرُكُوعِ » Il prononce ensuite le takbir pour s'incliner. Et ce takbir, il fait partie des takbirs de transition, c'est-à-dire les takbirs que l'on prononce pour passer d'une position à une autre dans la prière. Et ceux-là, ils sont obligatoires dans la prière. Contrairement au premier takbir, le takbir de sacralisation qui lui est un pilier. Tous les autres takbirs sont des obligations de la prière. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, on lève les mains pour ce takbir lorsque l'on part en inclination. Ensuite, il dit « وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ » Et il pose ses deux mains sur ses genoux, sa main droite sur son genou droit et sa main gauche sur son genou gauche. وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ Et il aligne sa tête avec son dos. C'est-à-dire que lorsque tu t'inclines, la sunna est que ta tête soit alignée avec ton dos. Que tu ne la relèves pas trop de sorte à ce qu'elle soit levée, et tu ne la baisses pas non plus en approchant ton menton de ton torse. Mais tu fais en sorte que ta nuque soit aligné avec ton dos. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَيَقُولُ Subhana Rabbi al-Azim. Et il dit, Subhana Rabbi al-Azim, pureté à mon Seigneur, l'immense, wa yukarriru, et il le répète. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous indique donc ici l'invocation qu'il est légiféré de prononcer lors de l'inclination. Et ceci nous est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, d'après Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu qui a dit, j'ai une nuit prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il dit, il s'est incliné, il s'est mis à dire Subhana Rabbi al-Azim. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, et il le répète. C'est-à-dire que tu répètes cette formule de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation dans la prière est de la prononcer une fois. Et le mieux est de la répéter au moins 3 fois. Et tu peux la répéter 10 fois. Ceci est ce qui est légiféré à ce sujet. Mais si la personne la prononce une fois, alors cela est suffisant et sa prière est valide, inshallah ta'ala. Toutefois, le mieux est de la répéter et de la prononcer à plusieurs reprises. Comme cela nous est rapporté, toujours d'après Hudayfa, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il s'inclinait Subhana Rabbi al-Azim 3 fois. Et ceci est venu dans un hadith rapporté par Ibn Majah et d'autres, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah, wa in qala ma'a dhalika hala ruku'ihi wa sujudihi Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir li fa hasan. Il dit rahimahullah que c'est une bonne chose si en plus de cela, en plus de Subhana Rabbi al-Azim, dans l'inclination et la prosternation, tu ajoutes cette invocation qui est Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li, alors ceci est une bonne chose. Et ce car les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala rapportent d'après Aisha radiallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait cette invocation dans son inclination et sa prosternation. Et il y a d'autres formules qui sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est légiféré de prononcer durant l'inclination ou la prosternation. Et pour plus de détails à ce sujet, je vous renvoie une fois de plus au livre de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala qui est très détaillé sur ces sujets dans lesquels il a mentionné les différentes invocations qui sont légiférées de prononcer aux différents moments de la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. Puis il lève sa tête, c'est-à-dire qu'il se relève de l'inclination. Et il dit, قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا. Il se lève de l'inclination en disant, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا. Le shir nous dit, rahimahullah, s'il est imam ou s'il prie seul. On voit donc qu'ici, il fait la distinction entre les différentes prières. En effet, lorsque tu pries, soit tu es imam, tu diriges la prière à d'autres personnes, soit tu pries seul, soit tu pries derrière un imam. Et sur certaines questions, il y a une distinction à faire entre ces 3 catégories. C'est-à-dire que sur certaines questions, ce n'est pas la même chose qui sera légiférée pour l'imam ou pour celui qui prie derrière lui. Et entre dans cela le fait de prononcer « Sami'a Allahu liman hamida ». Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que cela ne concerne que l'imam ou celui qui prie seul. Puis il dit وَيَقُولُ الْكُلُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ. Et tous prononcent, c'est-à-dire celui qui prie seul ou l'imam ou celui qui prie derrière lui. Ils disent رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné une invocation plus longue qu'il est légiféré de prononcer. Et l'obligation en cela est de prononcer au moins Rabbana wa lakal hamd. Et ce comme il le dit, que tu pries seul, ou que tu sois imam, ou que tu pries derrière un imam. Et cette formule, il est rapporté différentes manières de la prononcer. Il est légiféré de dire Rabbana wa lakal hamd, ou alors d'enlever le waw et de dire simplement Rabbana lakal hamd. Et également, il est permis de faire précéder cela de Allahumma, en disant Allahumma Rabbana wa lakal hamd ou Allahumma Rabbana lakal hamd. Donc, tu varies entre ces différentes formules, et comme on a dit, ceci comporte de nombreux bénéfices et notamment va t'aider à te concentrer dans ta prière et à être attentif à ce que tu prononces. Et concernant les autres invocations qui sont légiférées, comme je vous ai dit, je vous renvoie à ce sujet au livre de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala qui comporte tous les détails à ce sujet. Ensuite, il dit: ثم يسجد على أعضائه السبعة Ensuite, donc après s'être relevé de l'inclination, avoir prononcé ces paroles, il s'incline sur ses sept membres. Et le shir, rahimahullah ta'ala, ici, n'a pas mentionné le takbir. Toutefois, il est légiféré lorsque tu pars en prosternation de dire Allahu Akbar, comme dans chacune de tes transitions lorsque tu passes d'une position à une autre dans la prière. Tu dois donc te prosterner sur sept membres, comme il nous le dit, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. On m'a ordonné, c'est-à-dire Allah m'a ordonné, de me prosterner sur sept membres. Ala al-jabha, sur le front, wa ashara bi yadihi ila anfihi. Et il a indiqué avec sa main son nez. C'est-à-dire que ceci est un membre, le front et le nez. Wal-kaffayn, les deux mains. Wal-rukbatayn, les deux genoux. Wa atrafil qadamayn, et les extrémités des deux pieds. C'est-à-dire, les extrémités, cela désigne les orteils. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, que ce hadith est muttafaqun alayhi. Il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Ceci est donc la manière légiférée d'accomplir la prosternation. Et il est indispensable pour la personne de se prosterner sur ses sept membres. Et il faut prendre garde à ne pas lever un de tes membres durant la prosternation, comme en ne se prosternant que sur le front, par exemple, sans poser le nez. Ou alors en mettant un pied sur l'autre, comme le font certaines personnes, notamment lors de la deuxième prosternation. Il laisse ses pieds à la position dans laquelle il les avait mis lors de son assise. Mais il est indispensable que tu te prosternes sur ces sept membres, le front et le nez, les deux mains, c'est-à-dire les paumes des mains, les deux genoux, et les extrémités des deux pieds, c'est-à-dire en posant les orteils sur le sol, dirigés vers la qibla. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa yaqul, subhana rabbi al-a'la. Puis il dit, subhana rabbi al-a'la, pureté à mon Seigneur le plus haut. Comme cela est rapporté toujours dans le hadith de Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit qu'il a une nuit prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que lorsqu'il s'est prosterné, il a dit Subhana rabbi al-a'la. Et de la même manière que pour l'invocation lors de l'inclination, il est légiféré de répéter cette parole. Le minimum obligatoire est que tu la prononces une fois. Le minimum de la perfection est que tu la prononces trois fois. Et le mieux est de la prononcer une dizaine de fois. Et après cela, il est légiféré lors de la prosternation de multiplier les invocations. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Lorsque tu es en prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, étant donné qu'à ce moment tu es le plus proche d'Allah, qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fa'aktilu du'a. Alors multipliez l'invocation. Tu multiplies à ce moment les demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, tu profites de ce moment propice où tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui adresser tes demandes, lui faire part de tes différents besoins parmi les besoins religieux ou mondains. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, thumma yukabbir. Ensuite, il prononce le takbir, tu dis Allahu Akbar, pour te relever de cette prosternation. Wa yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna wa huwa al-iftirash. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous décrit ici la manière de nous asseoir dans la prière, plus précisément ici, entre les deux prosternations. Donc après la première prosternation, tu te relèves, tu dis Allahu Akbar, et tu vas t'asseoir. Et le shir rahimahullah ta'ala nous dit que cette assise, elle s'appelle l'assise d'al-iftirash. Elle consiste à s'asseoir sur son pied gauche. C'est-à-dire que le dessus de ton pied gauche est posé sur le sol et tu t'assois sur celui-ci. Quant à ton pied droit, tu le dresses. C'est-à-dire que tu le places de manière perpendiculaire au sol en tenant tes orteils en direction de la qibla. Et cette assise, qui est l'assise de l'iftirash, le shir rahimahullah ta'ala nous dit qu'elle est à adopter dans toutes les assises de la prière. Il dit rahimahullah, wa yaf'alu dhalika fi jami'i jilsati s-salah. Et il fait cela dans l'ensemble des assises de la prière. C'est-à-dire entre les deux prosternations, ou alors pour l'assise de repos, ou alors l'assise du premier tashahhud. Et il fait une exception, il dit, illa fi tashahhudil akhir. Sauf durant le dernier tashahhud. Qu'est-ce qui est visé par le dernier tashahhud? Le dernier tashahhud, c'est celui qui a lieu dans les prières à plus de deux unités. Les prières dans lesquelles il y a deux tashahhud. Quant aux prières à deux unités, dans lesquelles il n'y a qu'un seul tashahhud, comme la prière du Fajr ou autre, alors durant le tashahhud on s'assiera selon l'assise d'al-iftirash que l'on vient de décrire. Mais ce qui est visé par le dernier tashahhud, c'est-à-dire le deuxième tashahhud dans les prières à plus de deux unités. Il dit donc que dans celle-ci, on doit s'asseoir de la manière suivante. Fa'innahu yatawarrak. Il fait le tawarruk. Cette assise, elle s'appelle le tawarruk. Bi'an yajlisa ala al-ard wa yukhrij rijlahu al-yusra min al-khalf al-ayman. C'est que tu t'assoies sur le sol, c'est-à-dire que tu poses ton postérieur gauche sur le sol et que tu fasses sortir ton pied gauche sous ta jambe droite. Ceci est l'assise que l'on appelle at-tawarruk, qui est légiférée seulement pour le dernier tashahhud dans les prières à deux tashahhud. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa yaqul, et il dit, c'est-à-dire durant l'assise entre les deux prosternations, Rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ô mon Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi ma subsistance, guéris-moi et accorde-moi le salut. Ceci fait partie des formules d'imploration de pardon qui sont rapportées à prononcer entre les deux prosternations. L'obligation en cela est de dire au moins une fois Rabbi ighfirli. Si tu prononces cette parole une fois, après t'être tenu bien assis durant cette assise, alors la prière est valide, inshallah ta'ala. Et le mieux est de la répéter à plusieurs reprises, ou alors d'ajouter à celle-ci ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné, en disant Rabbi ighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wajburni, wa'afini. On voit donc que cette assise, c'est une assise d'imploration du pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit Thumma yasjudu thaniyata kal-ula. Puis ensuite, il fait la deuxième prosternation comme la première. C'est-à-dire que tu prononces le takbir et tu te prosternes de la même manière que tu te prosternais pour la première. Ensuite, il dit, rahimahullah, thumma yanhad mukabbiran ala suduri qadamay. Puis il se lève en faisant le takbir en s'appuyant sur ses pieds. Donc ici, il y a plusieurs points à relever concernant la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. On comprend de sa parole qu'après la prosternation, on se relève directement. Or, vous savez certainement qu'il y a à ce moment-là une assise qui est légiférée qui s'appelle l'assise de repos. Cette courte assise que l'on fait avant de se relever pour la deuxième unité. Et la raison pour laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, ne l'a pas mentionné, c'est que les savants ont divergé concernant la recommandation d'accomplir cette assise ou non. Et ceci fait partie des questions au sujet desquelles la divergence est admise et qui ne doivent pas être une cause de discorde et de division entre les musulmans. Donc celui qui considère que cette assise est recommandée, suivant ainsi l'avis des savants qui ont soutenu cela, alors ceci est une bonne chose. Et celui qui ne la fait pas, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il se lève en s'appuyant sur ses pieds, c'est-à-dire sans s'appuyer sur ses mains. Mais il se relève en se mettant sur ses pieds, puis il se met debout. Et ça également, c'est une question au sujet de laquelle les savants ont divergé concernant la manière de prier. Doit-on se relever en s'appuyant sur ses mains ou alors en s'appuyant sur ses pieds sans poser ses mains au sol? Et cette question également fait partie des questions au sujet desquelles la divergence est admise et qu'ils ne doivent pas être une cause de discorde et de division entre les musulmans. Car ceci est une question qui est sujette à l'ijtihad, l'effort d'interprétation à partir des textes, et comment les savants ont compris les textes qui nous sont rapportés à ce sujet. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُصَلِّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى » Puis il prie la seconde unité comme la première. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans la première unité, tu vas le refaire de la même manière dans la seconde, à l'exception d'une chose qui est l'invocation d'ouverture, qui elle n'a lieu qu'au début de la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, une fois que tu as fini la seconde unité, après la deuxième prosternation de la seconde unité, ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ, puis il s'assoit pour le premier tashahhud. وَصِفَتُهُ, et sa description, la description du tashahhud, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ici une des formules de tashahhud qui est rapporté et légiféré. Et il dit « At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wa-t-tayyibat, as-salamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les salutations appartiennent à Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs vertueux d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ceci est donc une des formules de tashahhud qui est rapportée et qu'il est légiféré de prononcer dans la prière. Et il est recommandé lors du premier tashahhud également de prononcer ce qu'on appelle Salat al-Ibrahimiyya, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné ensuite. Après, il dit rahimahullah, dans le cas où la prière est une prière à plus de deux unités. Thumma yukabbir. Ensuite, tu prononces le takbir, tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire en te levant pour la troisième unité. Wa yusalli baqi salatihi bil fatihati fi kulli rak'a. Et il prie le restant de sa prière avec la fatiha dans chaque unité. C'est-à-dire que la troisième ou la quatrième unité de la prière, elle a lieu de la même manière que les deux premières, sauf que dans celle-ci, on ne va réciter que la fatiha. Et ce comme nous le prouve le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait dans les deux premières unités du dhuhr et de l'asr, la mère du livre, c'est-à-dire surat al-fatiha, et une surah, une autre surat. Et parfois, il nous faisait entendre un verset. C'est-à-dire que parfois, il récitait à voix élevée un verset de la surat qu'il récitait après surat al-fatiha. Puis il dit, et il récitait dans les deux dernières unités l'ouverture du livre, surat al-fatiha. Toutefois, il faut savoir qu'il est légiféré lors du dhuhr et de l'asr spécifiquement de réciter une autre surat après surat al-fatiha, une surat plus courte que celle que l'on aura récitée dans les deux premières unités. Et les hadiths rapportés à ce sujet sont mentionnés dans le livre de Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala, sur la description de la prière. Puis il dit, ثُمَّ يَتَشَهَّدْ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرِ وَهُوَ الْمَذْكُورِ. Ensuite, c'est-à-dire après avoir fini la troisième, si c'est la prière du Maghreb, ou la quatrième pour l'Isha, le Dhuhr, l'Asr, tu vas t'asseoir pour prononcer le dernier tashahhud. Et tu vas t'asseoir, comme on a dit, à la manière du tawarruk. Et tu vas prononcer le tashahhud, qui est celui que l'on vient de mentionner. وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمْ. Et tu vas ajouter à cela ce qui a précédé. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ceci est donc une des manières de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est légiféré de prononcer. Et ceci fait partie des piliers de la prière lors du dernier tashahhud. Quant au premier tashahhud, alors, durant celui-ci, c'est simplement recommandé. Ensuite, il nous dit une autre chose à prononcer ici, qui est la recherche de refuge contre quatre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il dit أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux messie. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous prononce le tashahhud, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre quatre, puis il a mentionné cette invocation. Et certains parmi les gens de science ont dit que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam indique ici l'obligation. Il incombe donc aux musulmans d'apprendre cette invocation et de la prononcer lors de son tashahhud avant de clôturer sa prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « وَيَدْعُ اللَّهَ بِمَا أَحَبَّ » et il invoque Allah par ce qu'il souhaite. Comme cela est démontré dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, après avoir enseigné le tashahhud, puis après cela, qu'il choisisse parmi les invocations ce qu'il veut. Donc une fois que tu as prononcé le tashahhud, puis la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la demande de protection contre les quatre, il est légiféré pour toi avant les salutations d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu souhaites, et le mieux est de l'invoquer par les formules qui nous sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celle qu'il a enseignée à Mu'adh. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Également, il y a la demande du paradis, la recherche de refuge contre l'enfer, et également l'invocation qu'il a enseignée à Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Et autres parmi les invocations qui sont légiférées de prononcer lors du tashahhud, avant les salutations, et que vous pouvez retrouver dans le livre de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: Thumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ensuite, il prononce les salutations en disant à sa droite et à sa gauche: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ceci est la manière la plus courante d'accomplir les salutations. Mais il est rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait parfois à droite: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis qu'il disait à gauche: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et également, il est rapporté qu'il disait parfois à droite: Assalamu alaykum wa rahmatullah, puis qu'il disait seulement à gauche: Assalamu alaykum. Ou alors, il disait à droite et à gauche, comme l'auteur rahimahullah ta'ala nous l'a mentionné: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ces trois manières de faire les salutations sont rapportées de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il convient aux musulmans de les prononcer de manière aléatoire dans ses prières. Et le Shir rahimahullah ta'ala nous dit que ceci est rapporté dans le hadith de Wa'il ibn Juhr, qui est rapporté par Abu Daoud rahimahullah ta'ala. Et les salutations, elles font partie des piliers de la prière. Comme cela est venu dans le hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la clé de la prière est la purification. Son tahrim est le takbir, et son tahlil et le taslim, les salutations. Donc on a vu qu'en ce qui concerne le takbir, le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière, c'est son tahrim, c'est-à-dire que cela te fait entrer en prière et ça te rend certaines choses interdites. Et son tahlil, ce qui va te rendre ces choses à nouveau permises, comme le fait de parler, de boire ou de manger, eh bien ce sont les salutations. C'est-à-dire qu'une fois que tu as prononcé les deux salutations, ta prière est clôturée et ces choses sont à nouveau permises. Après cela, le Shir rahimahullah ta'ala va nous mentionner quelles sont parmi les choses qu'il a citées, les piliers, les obligations et les choses recommandées dans la prière. Et on verra cela, inshallah ta'ala, lors de notre prochaine assise, bi'inillahi ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.